Alors, si vous voulez me suivre, on va aller ce matin dans Genèse chapitre 11, les versets 10 à 32. Autrement dit, on finit le chapitre 11. Vous allez voir que c'est comme une généalogie. Encore une fois, c'est un passage où on parle de noms, d'énumération de noms. Mais on va voir que si on s'arrête, qu'on étudie le texte un petit peu en profondeur, qu'il y a des bénédictions énormes, des choses très intéressantes qu'on peut apprendre de ce passage-là. Alors, à partir du verset 10, voici les descendants de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpakshad 2 ans après le déluge. Et Sem, après qu'il eut engendré Arpakshad, vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Arpakshad vécut 35 ans, et engendra Shélakh. Et Arpakshad, après qu'il eut engendré Shélakh, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Shélakh vécut 30 ans, et engendra Héber. Et Shélakh, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Héber vécut 34 ans et engendra Péleg. Et Héber, après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et Péleg vécut 30 ans et engendra Réu. Et Péleg, après qu'il eut engendré Réu, vécut 209 ans et il engendra des fils et des filles. Et Réu vécut 32 ans et engendra Sérug. Et Réu, après qu'il eut engendré Sérug, vécut 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Sérug vécut 30 ans, et il engendra Nachor, ou Nachor. Et Sérug, après qu'il eut engendré Nachor, vécut 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Nachor vécut 29 ans, et engendra Taré, ou Térak, ça dépendait des versions. Et Nachor, après qu'il eut engendré Taré, vécut 119 ans. Il engendra des fils et des filles. Et Taré vécut 70 ans et engendra Abram, Nachor et Haran. Voici les descendants de Taré. Taré engendra Abram, Nachor et Haran. Et Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Taré, son père, au pays de sa naissance, à Ur, des Chaldéens. Et Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nachor, Milca, fille de Haran, père de Milca et père de Jiska. Mais Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et Taré prit Abram, son fils, et Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Saraï, sa belle-fille, sa femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y demeurèrent. Et les jours de Taré furent de 205 ans, puis Taré mourut à Charan. Alors, on va demander la bénédiction de l'Éternel pour étudier notre passage. Alors, Seigneur, on vient à ta présence, nous sommes tes enfants, nous t'aimons. Tu nous as aimés de toute éternité, tu nous as délivrés du péché, tu nous as donné la vie éternelle, tu nous as donné la réconciliation avec toi. On veut te rendre grâce. Ce matin, Seigneur, on a besoin que tu nous ouvres l'intelligence par ton Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur, dans ta vérité et permets qu'on comprenne le passage et toutes les richesses qu'il comprend et qu'on les applique dans notre vie et tout cela pour ta plus grande gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé le passage qu'on va étudier ce matin, « Le plan divin du salut développé ». Parce que le problème, quand on lit un passage de généalogie comme ça, on est porté à passer rapidement, on ne comprend pas grand-chose, c'est juste des noms qui sont répétés l'un derrière de l'autre, et on manque le bateau des fois. Il faut qu'on regarde un petit peu à partir du début de la Genèse. Et regardez, le Seigneur veut nous emmener où avec ça? Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Le plan divin du salut développé ». On va regarder ça un petit peu plus en détail tantôt. Alors, je vois trois idées dans le texte développées par prophétisation. On va voir que si on se met à reculer un petit peu dans la Genèse, il y a des prophéties que Dieu avait données pour montrer quelle solution il voulait apporter au problème du péché. Et quelle était cette solution-là? C'était l'envoi futur d'un Messie qui était la personne de Jésus-Christ. Mais on sait que entre le moment où on lit ces lignes-là et l'arrivée de Jésus-Christ, il y a eu une très longue période de temps. Alors, le Seigneur veut nous montrer que l'arrivée du Messie, c'est quelque chose qui avait été promis dès le début. Dans Genèse 3, 15. Ça, c'était un des débuts. Les versets 10 à 26 vont surtout nous parler que le plan divin du salut a été développé par préservation. Qu'est-ce que l'idée principale de 10 à 26? 10 à 26 nous montre que le Seigneur s'est servi d'un des enfants de Noé, qui s'appelait Sem. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de qu'est-ce que son nom voulait dire, Sem. Son nom veut dire « le nom ». Autrement dit, Dieu va se servir de la lignée de Sem pour préserver le nom de Dieu, pour préserver l'adoration divine, le culte au vrai Dieu. Il va se servir de lui qui, à travers les générations, les descendants de Sem vont préserver le nom. Et les versets 27 à 32, le Seigneur va nous montrer par quels moyens il va utiliser pour préserver la véritable adoration et préserver le véritable culte à Dieu. Et c'est la nation juive. Alors, il est en train de nous préparer par les généalogies, fils d'un. Là, il va arriver à Taré ou Térak, qui était le père de, ici, il est nommé Abraham. Et le mot Abraham veut dire père élevé. Autrement dit, Dieu s'est servi d'une personne qui sortait d'Ur des Chaldéens. Et Ur des Chaldéens, est-ce que c'était un pays où on adorait Dieu ou c'était un pays d'idolâtrie? L'idolâtrie. Parce qu'on va le voir tantôt, il y a des versets qui nous disent clairement que Ur des Chaldéens, là où Abraham était tiré avec son père et envoyé vers Canaan, c'était un pays d'idolâtrie. Pourquoi on l'appelle père élevé? Parce que le Seigneur a pris quelqu'un qui était dans le pays des Chaldéens, et il l'a fait venir vers Canaan dans le but de lui donner sa grâce et dans le but qu'il devienne le père élevé. Mais son nom est changé plus tard dans les Écritures, de Abraham à Abraham. Abraham qui veut dire quoi? Père d'une multitude. Et si on regarde à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, quand on parle d'Abraham, on en parle souvent comme le père des croyants. Autrement dit, il est comme l'exemple suprême des croyants. Alors, pourquoi son nom a été changé? Parce que là, il devient le père, non seulement de la nation juive, mais il devient, à cause de son rayonnement, des promesses que Dieu lui a faites, le salut va s'étendre à d'autres qu'aux Juifs, va s'étendre à l'ensemble des nations. Il y a une chose que j'aimerais qu'on remarque. Quand on étudie le livre de la Genèse, tous les commentateurs, tous ceux qui ont étudié un petit peu sérieusement le livre, voient une double. Il y a deux parties dans Genèse. Le chapitre 1 à 11. Quand vous regardez chapitre 1 à 11, ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire des hommes, de la création, de la chute, du jugement de Dieu. Après ça, il y a eu Nimrod, il y a eu Babel. Mais c'est l'histoire des hommes en général. Après ça, Dieu les a jugés et les a dispersés sur toute la terre entière. On parle de qui, là? On ne parle pas des Juifs. On parle des hommes en général. 1 à 11, c'est l'histoire primitive des hommes. Chapitre 1 à 11. À partir du chapitre 12, qu'on va commencer la semaine prochaine, là, on tombe dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire patriarcale, l'histoire des grands patriarches. Et quels sont-ils, ces patriarches-là? Abraham, son fils Isaac, Jacob qui a eu les enfants, dont les 12 tribus d'Israël, et Joseph, qui termine Genèse jusqu'à 50. Alors, à partir du chapitre 12, aller jusqu'au chapitre 50, on a l'histoire patriarcale. Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. C'est important de l'avoir, la division, parce que là, le passage qu'on lit ce matin, on pourrait appeler ça un passage trait d'union, qui fait qu'on passe de l'histoire des hommes et Dieu nous prépare à la prochaine histoire qui est celle du peuple d'Israël. Comment c'est arrivé, ça, qu'il y a une nation qui a hérité des oracles de Dieu et qui, eux, y avaient pour mission de conserver la véritable adoration dans leur manière de vivre? Alors, dans son commentaire sur le livre de la Genèse, le pasteur Philip Evson, qui a publié un livre sur la Genèse dans Europresse, à la page 204, on va l'avoir dans la bibliothèque en bas, s'il y en a qui veulent l'emprunter plus tard pour l'emprunter, en français, un excellent livre qui a été écrit dans la perspective réformée baptiste sur l'ensemble du livre de la Genèse. Très bien fait, très bien écrit, qui peut nous aider beaucoup à comprendre le livre de la Genèse. Voici ce qu'il dit. Quand on arrive au chapitre, à la généalogie et à la fin du chapitre 11, qui se trouve être la fin de la première partie, la première division de Genèse. Alors il dit, et là je cite ces mots, mot à mot, c'est une citation, il dit « Il est impossible de comprendre la vocation d'Abraham. » Qu'est-ce qu'on veut dire par vocation? « Va », ça veut dire de voix, l'appel d'Abraham. Autrement dit, il est impossible de comprendre l'appel d'Abraham, l'élection d'Israël pour être la lumière des nations, parce que c'est ça qui s'en vient. Là. Avec Abraham, la nation d'Israël va être créée, et cette nation-là va maintenir la véritable adoration et la vérité divine à travers les siècles et au milieu des nations païennes. Après ça, il dit, et la venue de Jésus, si nous ne mesurons pas ces premiers chapitres à leur juste valeur. Autrement dit, il dit, les 11 premiers chapitres de la Genèse sont importants pour comprendre la vocation d'Abraham, l'élection d'Israël pour être la lumière des nations et la venue de Jésus, si on ne comprend pas vraiment bien les 11 premiers chapitres. Il continue en disant, ils enseignent que Dieu est souverain. Ça veut dire quoi, ce Dieu est souverain? Il contrôle la destinée des individus et des nations de façon parfaite. Alors, c'est ça que le chapitre nous montre. On l'a vu la semaine dernière, avec Babel, les hommes ont voulu construire une tour dans le but d'adorer les démons. Le Seigneur a amené la confusion des langages. Il faut être souverain. Souverain, ça veut dire que c'est lui le roi, c'est lui le patron, c'est lui le grand boss, comme on dit en québécois. Alors, il les a dispersés, confondus leur langage. Alors, ça montre, les 11 premiers chapitres, que Dieu est souverain. Il est le commencement de toute chose. Oui, il y a eu la création, il y a eu plein de choses dans les 11 premiers chapitres. Et que l'être humain est créé à son image. Les 11 premiers chapitres expliquent pourquoi l'homme est ce qu'il est aujourd'hui. C'est un pécheur en révolte contre Dieu à la suite de la rébellion initiale dans le jardin de Dieu. Le triste état du monde livré à sa propre ingéniosité aboutit à la crise du déluge, où les hommes vivaient selon leur propre façon, et ça a abouti à ce que le Seigneur a porté un jugement et a dit, il a regardé tout ce que les hommes faisaient sur la terre n'était que méchanceté. C'est là qu'il a voulu détruire l'humanité, excepté combien de personnes? 8 personnes. Noé, son épouse, ses 3 enfants et leurs épouses qui faisaient 8 personnes. Mais ça dit, mais Dieu intervint dans sa grâce pour sauver Noé et sa famille. Puis, la colère divine frappe de nouveau l'humanité pécheresse à la tour de Babel. Voyez-vous, même après qu'il est sorti, les descendants de Noé ont commencé à retomber dans le péché, dans l'idolâtrie et dans la volonté de rébellion contre Dieu par l'érection de la tour de Babel. Après ça, il dit, il s'ensuit confusion du langage, division, dispersion des hommes sur la face de la terre et la formation de tribus et de nations avec leur propre langue et culture. Oui, c'est tout ça qu'on a vu depuis le début. Plus on perçoit le déroulement de tout cela, plus on apprécie le passage d'aujourd'hui. Après ça, il dit « Un ennemi a provoqué ce chaos, mais l'être humain est également responsable de ses actions. La Genèse ne fournit que des indices très vagues quant à l'identité de cet ennemi. Même s'ils sont vagues, on sait c'est qui, c'est le malin. La tentation vient de l'extérieur du jardin, d'un serpent, un animal des champs, qui utilise la voix et le langage humain. À ce moment, paraît aussi la première lueur d'espoir. » La première lueur d'espoir après la chute, c'était quoi? Quand Dieu a dit au serpent que, à travers la semence de la femme, viendrait le Messie. Et après ça, il termine en disant « Dieu déclare la guerre à ce serpent et promet de lui écraser la tête par la postérité de la femme. » Et qui était la postérité de la femme?
Jésus-Christ.
Tous les poteaux indicateurs placés au début de chaque nouvelle section de la Genèse orientent le regard vers l'accomplissement de la victoire divine par cette postérité. Autrement dit, si on regarde tout ce qui s'est passé le début, la création, la chute de l'homme, Babel, la déluge, tout ça pour but de nous montrer que Dieu, il l'a dit qu'il emmènerait le Messie et il va l'emmener. Malgré l'opposition des hommes, malgré tous les obstacles qui vont se présenter. Alors, les noms mentionnés dans les généalogies du chapitre 11 de la Genèse n'ont pas pour but de donner des détails sur leur vie. Alors, les noms sont mentionnés dans le but de montrer que Dieu a fait une promesse et qu'il va se servir de ce qu'il a promis pour accomplir le but vers lequel tout ça s'en va. Là, il faut voir comme un déroulement dans la Genèse. Et là, on en voit une partie. Le Seigneur est en train de développer son plan de salut. Autrement dit, le plan de salut, il est comme donné en Genèse 3:15, première fois. Mais tout au long des Écritures, il est développé. C'est comme s'il nous mettait un petit germe dans Genèse 3:15, et le germe va se développer de plus en plus, va devenir de plus en plus précis pour dire qui sera le Messie, dans quelle nation il va venir au monde, de quelle tribu il va venir, dans quel village il va venir au monde, etc., etc. Ça va se développer au cours de l'ensemble des Saintes Écritures dans l'Ancien Testament. Alors, le passage d'aujourd'hui va nous enseigner qu'il existe un Dieu personnel. Dieu intervient dans tout cela. Pourquoi que le père d'Abraham a décidé de sortir d'un pays qui était idolâtre et de les envoyer vers Canaan, qui était la terre promise, mais qui n'est pas encore été mentionné dans les Écritures? C'est juste que Dieu nous prépare le chemin à la compréhension de ce qui s'en vient. Donc, c'est un Dieu personnel, c'est un Dieu bon, et c'est un Dieu souverain. Et ce Dieu-là a un plan de salut pour l'humanité, pécheresse, et que l'histoire chemine vers ce but-là, soit la venue future du Messie et Sauveur Jésus-Christ. Si on manque ça, en lisant les 11 premiers chapitres, on manque un gros morceau parce que c'est ça l'idée principale. Alors, quand j'ai dit le premier point, que tout cela, le plan de salut divin est développé par prophétisation, autrement dit, quel est le premier endroit où il est parlé de l'envoi du Messie futur pour régler le problème du péché des hommes? C'est dans Genèse 3:15. Et le Seigneur dit ça à qui? Il fait une promesse à qui, là, dans Genèse 3:15? Au serpent. Parce qu'il est en train de juger le serpent. Et il dit, « Et je mettrai inimitié entre toi, » il parle à qui, là? Il parle du serpent. « Entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. » La postérité, là, ici, là, c'est Jésus-Christ. Il est en train de dire, « Jésus-Christ va t'écraser la tête, Satan. » Et il dit, « Et toi, tu la blesseras au talon. » Alors, la postérité, bien sûr, quand Jésus est venu, il a été torturé, maltraité par les hommes, et poursuivi par Satan, par toutes sortes de moyens. Et c'est ça qui veut dire que Jésus-Christ, c'est comme le malin va réussir à lui blesser le talon. Quand on est blessé au talon, qu'est-ce qu'on fait? On a de la misère à marcher, mais ça ne l'empêchera pas de marcher quand même. Parce que Dieu va permettre que Jésus-Christ puisse écraser littéralement la tête du serpent. Quand une tête est écrasée, il n'y a plus grand-chose à faire avec ça, parce qu'il n'y a plus grand-chose qui va sortir de ça. Maintenant, une autre chose qu'il faut voir dans le développement de toute cette histoire-là, c'est la grâce de Dieu de maintenir, à travers l'ensemble des hommes qui, pour beaucoup, restent méchants, restent infidèles, restent rebelles, Dieu permet qu'il va toujours y avoir un reste qui soit fidèle à lui. Où on voit ça la première fois? Moi, ce que je veux qu'on voit, là, c'est le déroulement de toute l'histoire pour qu'on arrive au verset 10 et qu'on voit comment Dieu a amené ça vers là. Une des premières manifestations, ça a été la naissance de qui? Seth, S-E-T-H. Parce que Abel était mort, et Dieu a permis que Ève ait un autre enfant et que cet enfant-là soit un adorateur de Dieu. Alors, la grâce que Dieu permet, qu'il y a toujours quelqu'un qui soit un adorateur de Dieu. On voit ça dans Genèse chapitre 4, les versets 25 et 26. Ça dit, Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et il l'appela Seth, qui veut dire remplaçant. Car Dieu, dit-elle, m'a donné un autre fils au lieu d'Abel que Caïn a tué. Et un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela Enoch. Alors, ici, on voit la grâce de Dieu. Alors, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Maintenant, est-ce qu'il y a eu d'autres hommes après ça? Alors, on sait que c'est une chaîne. Hein? Dieu permet, par grâce, qu'il y ait toujours un reste, pas la majorité, un reste, qui va continuer l'adoration et la vérité divine. La marche avec Dieu d'Enoch et de Methuselah. Genèse 5, verset 22. Regardez bien le verset 22, c'est beau. Et Enoch marcha avec Dieu. Après qu'il eut engendré Methuselah, 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Methuselah, après qu'il eut engendré Lémec, vécut 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Et dans le verset 27, ça dit, tout le temps que Methuselah vécu fut donc de 900 ans. 69 ans. Donc, on voit que par Seth, il y a la perpétuation du véritable culte, la véritable adoration. Par Enoch et Methuselah, encore, ça continue. Après ça, il y en a un autre. Après ça, ça va être Noé. Là, on commence à se replacer dans le contexte. Noé, Genèse 5, versets 28 et 29. Et Lémec vécut 182 ans et engendra un fils. Et il l'appela Noé, qui veut dire repos. Beaucoup croient que les humains qui voulaient adorer Dieu à cette époque-là avaient perçu possiblement que Noé serait le Messie. C'est pour ça que ça dit et qu'il a donné son nom qui serait repos, mais ça ne l'était pas. Mais eux, ils avaient possiblement perçu ça. Et il l'appela Noé repos en disant, « Celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudite. » Il voyait en Noé la possibilité que ce soit le Messie. Alors on voit que la volonté qui vienne le Messie a toujours été de toutes les époques. Certaines l'ont vu arriver, c'était sûr que du temps de Jésus. Maintenant, autre chose que l'Éternel nous a montré sa grâce, c'est lorsqu'il a exercé sa miséricorde lors de l'envoi du déluge, dans Genèse 6, versets 7 à 9 et verset 14. Verset 7 à 9, ça dit, « Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, il y a une personne qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais il y a quelque chose de beau à regarder là-dedans, parce que la parole nous dit que c'est Noé qui a trouvé grâce, mais on voit que la grâce s'étend à sa famille. C'est beau, ça? Il fait grâce à une personne, mais on dirait que la grâce est tellement abondante qu'elle va jusqu'à sa famille. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Après ça, ça dit, verset 9, « Voici les descendants de Noé. » Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Voyez-vous, une autre affaire. Dieu permet qu'il y ait toujours un homme ou un petit groupe d'hommes, un reste, qui lui soit fidèle. Et dans le verset 14, pour le sauver, Dieu intervient verbalement et lui dit, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras l'arche par loge, tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors, et on connaît le reste de l'histoire. » Maintenant, il aboutit sur le mont Ararat, au bout d'un an, il est sorti avec sa famille, les 8 personnes. Et là, Dieu a voulu faire une promesse à Abraham. Et quelle était la promesse? L'alliance de l'arc-en-ciel. Autrement dit, que Dieu ne détruirait pas la terre par le moyen du déluge, encore une fois. Il lui a fait la promesse. Autrement dit, c'était une façon de Dieu de dire, « Je vais maintenir l'intégrité de la terre jusqu'à l'arrivée de mon Messie. Malgré votre méchanceté, malgré vos infidélités, malgré tout ce que vous allez pouvoir inventer pour vous mettre à travers le chemin. » Genèse 9, versets 9 à 16, ça dit, « Quant à moi, verset 9 à 11, c'est-à-dire, « Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Alors, déjà, ça commence, il est obligé de leur faire une... Parce que Dieu sait déjà dans sa providence comment les hommes vont encore retomber dans le péché. La descendance, les descendants de Sem, Cam et Japheth vont retomber dans le péché. Maintenant, chose qui est importante pour réaliser ce qu'on est en train d'étudier ce matin, dans les généalogies qu'on étudie ce matin, il faut se souvenir que Noé s'était enivré. Et que ses fils, il y en avait un qui avait agi incorrectement, qu'il y en avait deux qui avaient agi correctement, et que suite à ça, Dieu s'est servi de Noé pour faire une prophétie concernant la destinée des descendants de ces hommes-là. Et là, c'est là qu'on voit le nom de Sem. Très important. Parce que c'est là qu'on va voir ce matin, on est en train d'étudier, que Dieu est en train de nous montrer qu'il est en train d'accomplir la promesse qu'il a faite à Sem, qu'il deviendrait, par lui, le nom de Dieu, et l'adoration véritable serait maintenue. Alors, on regarde un petit peu les versets. On parle de Noé. « Et il but du vin, il s'enivra, se découvrit au milieu de sa tente. Et Cam, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. » Mais Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, et marchant en arrière, ils couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et il dit, voyez-vous, il est en train de faire une prophétie. Noé fait une prophétie concernant la destinée de ses trois fils, suite, comme conséquence de leur action, de leur conduite face à cette affaire-là. Il dit, maudit soit Canaan. Il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Puis, verset 26 est d'une importance capitale, si on veut saisir un petit peu ce qui se passe ce matin. Puis il dit, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. » Il dit pas « Béni soit Sem ». Il dit « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem ». Alors, par Sem, Dieu va permettre l'arrivée du Messie par sa descendance, et que Canaan soit leur serviteur. Et dans le verset 27, que Dieu étende Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur serviteur. Voyez-vous, on est en train de voir que la promesse, la prophétie que Noé a faite concernant Sem, on dit souvent les Juifs, c'est des Sémites. On parle d'antisémitisme, ça vient de là, Sem. Alors, par Sem va venir la naissance, le début de la nation sémite ou juive, par lequel Dieu va se servir pour maintenir l'adoration véritable et le dépôt de la vérité sur la terre. Maintenant qu'on se souvienne aussi qu'il y a eu la tour de Babel, et le Seigneur s'est servi de cet événement monstrueux-là pour les juger amener de la confusion dans leur langage et les disperser. C'était pas une dispersion volontaire. Dieu voulait que tous les hommes se répandent sur toute la terre, mais ils ne l'ont pas fait. Dieu les a forcés à le faire. Alors, la dispersion forcée, on est en train de voir que après qu'il les eut dispersés, est-ce que se sont tous mis à vivre en obéissance à Dieu? Parce qu'on dit que, on va voir tantôt dans Josué, que Josué nous dit que Taré, qui était le père d'Abraham, vivait dans une nation idolâtre. On va le lire tantôt le verset. Alors, il y avait eu la confusion des langues, et pas beaucoup de temps après, déjà les hommes retournent dans le péché, retournent dans la confusion. Et il y avait eu dans Genèse 10, verset 25, la prise de position de Péleg pour Dieu. Ça se dit, et à Héber, il n'a que deux fils. Le nom de l'un était Péleg, qui veut dire partage, car en son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère, Joktan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au moment qu'ils ont fait la tour, Péleg a pris position contre cela. Et c'est pour ça que ça dit, il n'a que le nom de l'un est Péleg, qui veut dire partage, car en son temps, la terre fut partagée. Autrement dit, il y a eu des hommes qui ont pris position pour Dieu, et Péleg était un des leaders de cela. Maintenant, dans Genèse 11, versets 10 à 26, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer par ce petit passage-là? On ne le reliera pas, c'est juste des noms. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur va nous montrer que la préparation de la future nation qui s'en vient, d'Israël, va passer par Sem, qui veut dire le nom. Dieu va se servir de la descendance des descendants de Sem pour maintenir la véritable adoration sur la terre. Et Dieu est en train de nous préparer à partir du verset 27 à 32 à la création de la nation d'Israël. Tout l'Ancien Testament, à partir de Genèse 12, aller jusqu'au Nouveau Testament, c'est l'histoire de la nation d'Israël. Alors Dieu est en train de nous préparer à nous montrer qu'il va la créer bientôt et que par elle, il va se servir d'elle pour maintenir la vérité sur la terre et tout cela. Alors on se souvient que le nom de Sem veut dire « le nom », indiquant que le nom de Dieu serait préservé et que la véritable adoration de Dieu serait perpétuée sur la terre. Le nom de Sem, bien entendu, on vient de le mentionner tantôt, à l'origine des termes sémitiques et antisémitisme en parlant de la nation juive. Donc, le Seigneur est en train de nous préparer à l'arrivée très proche de la naissance d'une nation et que c'est par cette nation-là qu'il va maintenir la vérité et la véritable adoration sur la terre jusqu'à l'arrivée du Messie. Alors, on voit dans les versets 10 à 26 la préservation de la lignée messianique. Autrement dit, les descendants. Il va toujours avoir des descendants dans la lignée de Sem qui vont se rendre jusqu'à l'arrivée du Messie. Donc, Dieu va se servir d'une nation qui va être les Juifs. On sait que Jésus est un Juif. Alors, nation pour préserver son nom et son culte. La preuve de ça, là, on sait que c'est juste une promesse. On est en train de voir le déroulement d'une promesse et son accomplissement graduel. Mais dans Marc, chapitre 15, au verset 2, les Juifs attendaient le Messie. Et le Messie, pour eux, c'était censé être un roi. Un roi qui viendrait, qui les réglerait tous leurs problèmes. Eux, ils pensaient que c'était un roi de nature terrestre qui était pour déloger les Romains qui les dominaient et qui les maltraitaient. Et que ce roi-là était pour les libérer politiquement. Ils comprenaient l'Évangile comme cela. Alors que ce n'est pas ça que Dieu voulait leur dire du tout. Et la preuve que Jésus était le Messie qui descendrait des Juifs et qui serait leur roi. Dans Marc 15, verset 2, ça dit, « Pilate lui demanda à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs? » C'est comme s'il demandait, « Es-tu le Messie? » Parce que le roi des Juifs, le Messie, c'est la même chose. « Es-tu le roi des Juifs? » Et remarquez la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Tu le dis. « Je le suis. » Le mot « je le suis » n'est pas là, mais ça veut dire « tu le dis. » Tu le dis. Dans Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose de mentionné qui est important pour comprendre qui serait le Messie et son identité. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, un verset très important. « Et de l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Que quand Jésus venait au monde, il avait la forme d'un homme. Il était pleinement homme. Mais ça, ça dit que, en même temps, il serait Dieu manifesté dans la chair. Autrement dit, il était Dieu dans sa grandeur, dans chacun de ses attributs, mais dans un homme. Il était à la fois homme et Dieu, il était l'homme-Dieu. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors, il y a quelque chose de révélé ici sur le Messie, qui est en train de nous dire que quand le Messie vient, c'est Dieu le Fils, qui vient vivre dans une chair d'homme, dans le but d'emmener le salut. Et il l'a emmené par sa vie parfaite sur la terre, l'obéissance à la loi, et quand il est arrivé sur la croix, il a subi le châtiment. Alors, il venait accomplir le salut. Mais c'était Dieu à l'intérieur de... Et ça a pris du temps avec les hommes saisissent. Même les apôtres de l'époque, Jésus disait aux apôtres, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Puis ils ne savaient pas. Il n'y en a rien qu'un qui a eu un éclair de génie, c'est Pierre, il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et d'où ça venait, ça? Ça venait pas de lui, parce que le Seigneur Jésus dit lui-même, « C'est Dieu le Père qui t'a fait cette révélation-là. » Et autre chose importante pour saisir qui étaient les promesses, parce que la semaine prochaine, on va commencer à étudier Abraham et les promesses que Dieu avait faites à Abraham et à sa postérité. Galates 3:16 est un verset clé pour comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire par cette promesse-là qu'il va faire dans Genèse 12 et plus loin 12, 15 et 17. Galates 3:16. Alors, ça dit, or, les promesses, est-ce qu'il y a une promesse? Les promesses. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Remarquez, le mot est au singulier, sa postérité, pas ses descendants. Sa postérité, autrement dit, quelqu'un qui va avoir son origine en toi par les hommes, mais qui vont finir par arriver à Jésus-Christ. Il n'est pas dit à ses postérités, au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule. Et à ta postérité, et là, c'est là la beauté des Écritures, c'est que ça ne nous laisse pas en suspens. Ça nous dit c'est qui sa postérité. La postérité dont Dieu parle, les promesses, il les a faites à Abraham et à sa postérité, il les a faites à Christ. Il les a faites à Christ. Et on sait c'est qui sa postérité. Sa postérité, l'Abraham, c'est Christ. Et ceux qui sont en Christ, ceux qui sont sauvés, sont qui? Ils sont en Christ. Donc, les promesses ont été faites à Abraham pour sa postérité qui est Christ et à ceux qui étaient en lui, nous. Maintenant, la dernière partie de cette partie-là, de 10 à 26, beaucoup de noms. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué la diminution de l'âge à mesure qu'on s'en va. Alors, on peut observer que le Seigneur, dans sa providence, a permis que la durée de vie de l'homme aille en diminuant jusqu'à atteindre celle que les psaumes considèrent comme ordinairement fixée par Dieu. J'ai fait rire ma femme hier, puis Francine, à la soirée de prière, parce que je leur disais que quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça y est, ma vie est finie. On va lire la raison. Psaume 90, verset 10. Verset 10. Les jours de nos années. C'est comme si le Seigneur est en train de nous dire que à partir du moment, ça a toujours diminué. Puis c'est comme si à un moment donné, il a dit, bon, ça va s'arrêter à peu près là. Il n'a pas donné de chiffre précis, mais c'est comme une indication. On va se rendre à peu près là. Les jours de nos années reviennent à 70 ans. Moi, je vais avoir 70 ans dans un mois. Fait que je dis à Lucie et à Francine, je dis, moi, ça y est, ma vie est finie. Dieu a dit que la durée de vie d'un homme, c'est 70 ans, puis je vais l'atteindre. Donc, je suis sur le bord peut-être de vous quitter. C'est une farce. Je ne sais pas à quel âge je vais venir me chercher. Et ça dit, et pour les plus vigoureux, ça veut dire que si je dépasse 70, le Seigneur est en train de me dire que je serai un homme vigoureux. Et il dit, à 80. Si je suis un vigoureux, on me rend à 80. Et le plus beau de ces jours n'est que peine et tourment. Je pense qu'on commence à comprendre ça uniquement quand on a à peu près 70 ans. Et que les maladies commencent à s'installer. Et que la vie devient plus lourde, plus difficile. C'est ça que la Bible est en train de dire. La vie de l'homme a été comme fixée à 70 ans, aux alentours. Combien d'hommes, mon père est mort à 72 ans? Puis on pourrait multiplier les exemples. Il y a des hommes qui dépassent 80. Oui, il y en a quelques-uns. Mais en général, si vous regardez leur vie, en général, beaucoup vont dire que oh, la vie est lourde, c'est pesant, c'est moins agréable que ça devrait être, etc., etc. Alors, la vérité des Écritures nous dit que Dieu a diminué l'âge des êtres humains. 110, c'est à peu près l'âge. 80 pour les plus vigoureux, il y en a qui vont dépasser. Mais comme ça dit, ce n'est que peine et tourment. Car il s'en va bientôt et nous nous envolons. T'es en train de dire, ça va diminuer. Puis dans le fond, je suis tellement content que ça l'ait diminué. Parce que ça n'aurait pas été drôle vivre dans les circonstances actuelles jusqu'à 970 ans. Moi, personnellement, je n'aurais pas été très intéressé à me rendre à 969 ans dans les conditions actuelles de vie sur la Terre. Alors, c'est une, faut voir ça comme une miséricorde de Dieu. Alors, je vous ai... Allez dans votre chapitre 10. Je vais vous donner les versets. Vous allez faire on va regarder la vérité de toutes ces choses-là. Dans les versets 10 et 11, ça dit que Sem a vécu jusqu'à 600 ans. Dans les versets 12 et 13, ça dit qu'Arpakshad a vécu jusqu'à 438 ans. Dans les versets 14 et 15, Shélakh, 433 ans. Dans 16 et 17, Héber, 464 ans. Versets 18 et 19, Péleg, 239 ans. Versets 20 et 21, Réhu, 239 ans. Versets 22 et 23, Sérug, 230 ans. 24 et 25, Nakhor, 148 ans. Verset 32, on arrive au père d'Abraham, qui est Térak ou Taré, dépendamment des versions, 205 ans. Alors on voit, on a parti de 969, on est rendu à 200. Et si on va regarder les Écritures ailleurs, un petit peu plus loin, l'âge des autres patriarches, on voit qu'Abraham est mort à 175 ans, Isaac à 180, Jacob à 147, Joseph à 110, Moïse à 120. Donc on est déjà rendu, ça baisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors le Seigneur est en train de nous faire prendre conscience que après qu'il les eut jugés avec la tour de Babel, il les a répandus sur la terre, mais que les hommes n'ont pas nécessairement vécu dans l'obéissance à Dieu. Parce que ça dit dans Josué, chapitre 24, versets 2 et 3. « Et Josué dit à tout le peuple, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Vos pères, Taré, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement au-delà du fleuve et servaient d'autres dieux au pluriel avec un petit D, avec un petit D-I-E-U-X. » Alors, ils étaient quoi? Des idolâtres. Malgré que Dieu les avait répandus, ils avaient retombé dans le péché et étaient des idolâtres. Dieu est obligé d'intervenir, faire sortir quelqu'un, singulariser un personnage et l'amener à sortir de là pour l'emmener vers la terre promise. Verset 3, ça dit « Mais j'ai pris... » Alors, c'est Dieu qui parle. Il dit « Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je le fis aller par tout le pays de Canaan et je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. » Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous montrer? C'est qu'il est obligé, encore une fois, d'intervenir pour amener l'exécution, l'accomplissement de sa promesse dans Genèse 3:15. Autre chose, on parlait tout à l'heure du maintien de l'adoration. Il s'est servi des Juifs pour le maintien de l'adoration. Mais il s'est servi aussi des Juifs pour le maintien de la vérité de la Bible. Romains 3, 2, vous avez sûrement déjà lu ça. Ça dit, quelle est donc la prérogative du Juif? Une prérogative, c'est une caractéristique, c'est une chance. C'est une... Bon, quelle est donc la prérogative, ou bien non, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il n'est pas en train de parler de la circoncision physique, il est en train de parler que les Juifs étaient connus comme étant des circoncis. Et c'est quoi l'utilité des circoncis? Autrement dit, c'était une des caractéristiques du peuple juif. Il dit, elle est grande, de toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Si on a les Écritures, Dieu a permis la conservation des Écritures en utilisant le peuple juif comme le véhicule de tout cela. Quand Jésus est venu, les Écritures existaient puisqu'il les connaissait, il les citait. Mais Dieu s'est servi du peuple juif, ça dit, et surtout en ce que... Quelle est la prérogative ou l'utilité? Elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu leur a été confiée. Les oracles leur ont été confiés. Alors Dieu est en train de nous préparer à ce qui s'en vient avec l'arrivée d'Abraham. Et il veut nous présenter les principaux personnages qu'on va rencontrer dans l'étude des chapitres 12 à 50. Parce que si on se demanderait d'où qui sortent ces gars-là. Il est en train de nous expliquer, bon, Sem, toute la descendance. Pour ça, il arrive à Taré ou Térak, dépendamment des versions. Et il veut nous montrer que Térak, c'était le père d'Abraham. Et ça dit, dans le verset, on va retourner dans verset 31, « Et Taré prit Abraham, son fils, et Lot, fils de Haran, son petit-fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble, d'Ur des Chaldéens. » Autrement dit, il a fait en sorte qu'ils sortent du pays des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. C'est quoi le pays de Canaan? La future Israël, la future terre d'Israël. Et ils vinrent jusqu'à Charan et ils y demeurèrent. Si on veut comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous préparer à un nouveau développement de l'accomplissement de sa promesse. Alors, autrement dit, il va se servir de Térak, le père d'Abraham, qui était un chef à travers lequel vont se réaliser les promesses de Dieu de sortir un certain nombre d'hommes de l'idolâtrie dans laquelle ils s'étaient déjà enfoncés. Et là, il y a des noms qui sont mentionnés. C'est sûr qu'on pourrait étudier tous les noms, mais je veux dire, pour qu'on puisse comprendre les chapitres qui s'en viennent, vous voyez, il y a des noms très importants qu'on va savoir d'où sortent ces noms-là. Il y a Abraham. Parce qu'au début, il mentionne de son nom Abraham, qui veut dire « père élevé », qui est devenu plus tard Abraham, qui veut dire « père d'une multitude ». Donc, père surtout d'une nation, après ça, surtout de l'ensemble des nations du monde. Alors, lui, Abraham, va jouer un rôle très important dans l'alliance que le Seigneur va faire avec lui. On va le voir la semaine prochaine et les autres semaines. Et il y a un autre personnage qui est mentionné, qui est important. Et c'est le personnage de Lot. Souvenez-vous qu'est-ce qui est arrivé à Lot? Bon, Lot, c'est le neveu d'Abraham. Autrement dit, c'est le fils de son frère, de son père. C'est le fils du frère de son père. Alors Lot, il ne faut pas se demander d'où il sort. Autrement dit, Abraham, c'est à son oncle. Après ça, il y a un autre personnage qui est mentionné, qui est très important dans le développement du plan de Dieu. C'est celui de Saraï. Plus tard, son nom, elle aussi, va être changé en Sarah. Alors, Saraï, qui est une épouse, l'épouse d'Abraham. Mais il y a une chose qui est mentionnée par rapport à cette femme-là dans ce passage-là. Stérile. Alors, Dieu est en train de nous montrer que Abraham, le père des croyants, était marié avec une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Voyez-vous le problème? Le problème, c'est que Dieu avait promis que le Messie arriverait par lui. Mais si tu es marié avec une femme qui n'a pas d'enfant, tu te dis quoi? Comment ça va arriver, il n'y a pas d'enfant? Dieu est en train de préparer le terrain pour montrer que ce n'est pas la stérilité d'une femme qui va arrêter le développement de son idée. Miraculeusement, il va faire en sorte que Sarah ait un fils, le fils, et non pas comme Abraham a cru, il a pris toutes sortes de pirouettes pour changer. Mais on va voir que c'est intéressant. Et autre chose qui est mentionnée, c'est qu'elle est 10 ans plus jeune que lui. 10 ans plus jeune que lui, ça veut dire que lui, quand il va avoir 99 ans, elle va avoir un fils dans un âge où normalement, on n'a plus d'enfants. Aujourd'hui, les femmes qui ont des enfants qui dépassent 40 ans, déjà, c'est un petit peu surprenant, puis c'est même un peu dangereux, mais Dieu a permis qu'une femme complètement stérile, il puisse miraculeusement changer cela pour le fait que Dieu avait dit à Abraham que c'est ta descendance qui va avoir... Alors, c'est pour démontrer sa puissance miraculeuse. Et il y a un autre nom qui est mentionné qui va être important pour réaliser tout ce qui se passe après. Et celui de Nakhor. On parle de Nakhor parce que quand Isaac va chercher une femme, Abraham va vouloir qu'il aille chercher une femme de sa race. Alors Nakhor deviendra un parent important lorsqu'il s'agira de trouver une épouse à Isaac. Et quand on lit toute cette histoire-là, c'est tellement merveilleux, on voit la main providentielle de Dieu qui conduit pour qu'il puisse avoir la femme que Dieu avait voulu qu'il ait. Mais on voit une autre chose qui est mentionnée à l'intérieur de tout ça, c'est que le père Taré ou Térak, dépendamment des versions, va fort probablement, la plupart des commentateurs croient que c'est sous l'influence de son fils. Parce que c'est juste mentionné au début du chapitre 12 que le Seigneur dit à Abraham, « Sors de ton pays, Ur de Chaldée, va-t'en dans le pays que je te montrerai, etc. » Mais la plupart des commentateurs croient que c'est sous l'influence de son fils. Son fils a eu la demande de Dieu et que Abraham aurait probablement dit, « Père, il faut sortir d'ici parce que Dieu nous demande de sortir. » Mais le père nous mentionne une chose ici, qu'il a obéi à son fils, il a suivi son fils, mais qu'il s'est rendu à moitié chemin. Alors, Dieu demanda clairement à Abraham de sortir du pays d'Ur des Chaldéens pour aller vers Canaan. Tout laisse croire que l'initiative de Taré ou de Térak de sortir du pays de Lot ait été prise sur la recommandation de son fils et de l'appel divin de le faire. En fait, Térak ou Taré ne complétera pas le voyage, il échouera et perdra de vue la destination finale en s'établissant à Charan ou à Caran, dans le croissant fertile. La région dans laquelle il s'arrête, c'est ce qu'on appelle souvent dans les Écritures ou dans les commentaires, le croissant fertile. C'est une région où c'était intéressant de s'installer pour eux, parce qu'il y avait de l'eau, il y avait de la végétation, c'était riche, c'était intéressant pour l'élevage des animaux, etc. Alors, il s'est arrêté là, mais le commandement, il avait déjà compris qu'il fallait qu'il s'en aille jusqu'à Canaan. Mais il a arrêté à moitié chemin dans une zone confortable. C'est là qu'on voit les hommes. Ils ont des commandements de Dieu, mais ils ne s'installent pas. Ils ne vont pas toujours jusqu'au bout, autrement dit. Le père d'Abraham, autrement dit, il est arrêté à mi-chemin. Fait que si vous regardez sur des cartes, vous allez voir que Charan, c'est à mi-chemin entre Ur de Chaldée et Canaan. Autrement dit, il obéit à moitié. Comme on fait souvent nous autres même. Alors, si des personnes se demandent où c'est Charan, je vous répondrai, c'est dans la Turquie moderne, près de la frontière syrienne, avec notre géographie moderne. Alors, il est allé dans la bonne direction, mais il n'est pas parvenu au but fixé. Alors, Taré ou Térak est mort hors de la terre promise. Taré a perdu de vue les promesses divines. Alors, ce qu'on croit, c'est que le père, pour toutes sortes de raisons, a décidé de s'installer là. Le fils, par respect paternel, il a resté là jusqu'à un bout de temps. Puis quand son père est mort, il a continué le voyage parce que Dieu, c'est pas là qu'il avait dit d'aller. Il n'avait pas dit « va jusqu'à Charan », il avait dit « va jusqu'à Canaan ». Alors, quelles applications qu'on peut faire à partir de l'étude du texte d'aujourd'hui? Moi, j'en vois trois. La première, voyons la main souveraine de Dieu, sa fidélité et sa puissance à accomplir ses promesses et son plan de salut à travers le Messie. Autrement dit, tout ça a pour but de nous montrer que Dieu va persévérer dans l'accomplissement de sa promesse plus tard. Alors, la main souveraine, c'est que Dieu est patron. Là, il s'en allait, il était encore retombé dans l'idolâtrie. Dieu fait sortir le peuple, il en prend un, et il dit « Sors, va à telle place, il va lui donner la loi. » Après, on sait que l'histoire du Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Deuxième application, reconnaissons la glorieuse grâce de Dieu se manifestant dans l'histoire des hommes et dans la venue du Messie. Malgré les misérables oppositions des méchants et la tendance des hommes à s'enraciner dans le mal sous toutes ses formes. Même après que Dieu les a eu dispersés. Normalement, il aurait dû, il me semble, tu aurais dû comprendre le message, mais il n'y a pas compris encore. Ils ont encore tombé dans l'idolâtrie. Ils adoraient toutes sortes de dieux. Dieu est obligé d'intervenir encore une fois pour maintenir sa grâce. Et la troisième application, prions l'Éternel de nous faire voir clairement le thème des Saintes Écritures. Quel est le thème des Écritures? Jésus-Christ. Et le fil conducteur de l'histoire, la personne de Jésus-Christ. En anglais, le mot « histoire », c'est « history », H-I-S. Mais si vous mettez un trait d'union entre H-I-S et le « story », ça fait « his », son histoire. C'est vrai que l'histoire du développement de l'histoire des hommes, en général, c'est son histoire. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont reliées soit à l'adoration de Dieu, ou soit à la fidélité à Jésus-Christ, ou à la foi à la venue future du Messie. C'est vrai que c'est ça. Alors, les Écritures, le thème central des Écritures, il faut le percevoir clairement. C'est vraiment la personne de Jésus-Christ. Et aussi, c'est le fil conducteur de l'histoire. Prenez à partir du début, à venir jusqu'à aujourd'hui, c'est « his story ». C'est son histoire. Son histoire à travers ses croyants, à travers le peuple d'Israël, à travers nous, l'Église, etc. C'est vrai que c'est ça. Alors, que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses-là, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.